France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque dimanche à 17h, Être et Savoir par Louise Touret.
Et ce dimanche, l'histoire de leurs 13 ans. 13 ans, c'est l'âge auquel on bascule dans l'adolescence. C'est l'âge aussi de la célèbre Esther, vous savez, l'héroïne des BD de Riyad Satouf, qui sera notre invitée. Riyad Satouf, hein, pas Esther, avec la journaliste et documentariste Charlotte Pudlowski et la linguiste Aurore Vincenti pour évoquer le langage des ados.
Être et Savoir, le magazine de l'éducation, tous les dimanches à 17h et sur franceculture.fr.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le président américain Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain, pardon, a envoyé hier soir une lettre à son homologue américain Donald Trump. Il l'invite au dialogue. Le locataire de la Maison-Blanche a en effet annoncé hier des taxes douanières sur les produits mexicains, plus 5% à partir du 10 juin, puis possiblement 10% dès le 1er juillet pour arriver à une surtaxe de 25% cet automne. Mesure de rétorsion, explique Donald Trump. Elle durera tant que les autorités mexicaines ne régleront pas le problème de l'immigration clandestine à destination des États-Unis. Voilà ce que précise Donald Trump. Elle remplace Sebastian Kurz et devient la première chancelière autrichienne. Brigitte Bierlein a été nommée hier soir par le président autrichien. Elle était jusque-là chef de la Cour constitutionnelle dans le pays. Et elle restera donc chancelière d'Autriche par intérim jusqu'aux élections législatives prévues en septembre. 12. Ils sont désormais 12 candidats pour remplacer Theresa May au poste de première ministre britannique. Le député conservateur Mark Harper a officiellement déclaré hier sa candidature. Le processus de désignation débutera dans la semaine du 10 juin prochain. L'actualité en France maintenant et cette interview dans les colonnes du Parisien ce matin, interview du procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, assure que des policiers mis en cause pour des violences lors de manifestations de gilets jaunes, que ces policiers seront renvoyés devant le tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année. Parmi les 174 enquêtes ouvertes pour des violences impliquant les forces de l'ordre, 67 dossiers sont en cours d'analyse au parquet. Il doit désormais décider des suites judiciaires. Et puis précisons que le suspect de l'attentat à Lyon reconnaît avoir fait allégeance au groupe État islamique. Cet Algérien de 24 ans est soupçonné d'avoir fait exploser un colis piégé faisant 13 blessés vendredi dernier. Sa garde à vue se poursuit ce matin. Celle de ses parents et de son frère, en revanche, ont été levées.
Esprit, es-tu là ? À la recherche de l'esprit européen, théâtre et compagnie sur France Culture. De Stefan Zweig à Paul Valéry, Camus, Éric de Luca ou Laurent Godet, tous explorent ce sentiment d'appartenance qui leur permet ou leur permettra de prononcer ces mots « Je suis européen », plaidant sans cesse pour le dialogue et pour la paix. Lu par de grandes voix, à la recherche de l'esprit européen, ce dimanche à 21h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous parlons bande dessinée ce matin avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et tous les vendredis, on voyage dans tous les univers de la bande dessinée. Bonjour tout le monde, bonjour aux lève-tôt fidèles au petit matin de France Culture à la radio et à celles et ceux qui écoutent le réveil culturel en différé. À la réalisation, Vincent Abouchard avec ce matin la technique Claire Levasseur. Cette émission a été préparée avec Sophie-Catherine Gallet et Maëlle Ray. L'amour dominical de Dominique Goblet et Dominique Théat, coédition Frémoc et Knock Outsiders, est tout à la fois une fantaisie amoureuse, une bande dessinée expérimentale, une rencontre entre deux artistes, deux Dominiques, une femme et un homme, deux univers, dessin et peinture, images et écriture, art brut et bande dessinée. Un beau livre hors norme, conçu à quatre mains. Dominique Goblet, l'invité du jour, nous vient de Bruxelles.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Ravi de vous accueillir, Dominique Goblet.
Bonjour, je suis ravie aussi, d'autant que la présentation était vraiment nickel.
Bah, merci.
Oui, c'est parfait.
L'amour dominical que vous co-signez avec Dominique Théat est d'abord une histoire d'une rencontre avec l'association La S, Grand Atelier, qui est située au cœur des Ardennes belges et qui propose une série de rencontres et d'ateliers de création, art plastique et art de la scène, avec des artistes mentalement déficients, pour reprendre leur formulation.
C'est bien ça, oui. C'est un centre d'art pour personnes porteur d'un handicap mental. Et la dynamique qu'il y a dans cet atelier, c'est de mettre en présence dans des jeux de partenariat des artistes qui sont sur place et donc porteurs de handicap avec des artistes, on va dire entre guillemets, non handicapés.
Et qui viennent en résidence
Et qui viennent en résidence dans une dynamique de vraie rencontre, pas d'animation ou de prise en charge. Donc c'est vraiment l'idée de faire un travail collaboratif.
Mais alors cette collaboration avec Dominique Théâtre, c'est une collaboration qui dure depuis quelques années, puisque vous avez déjà publié, il y a au moins 10 ans, oui, c'est sorti en 2009, votre premier livre avec lui, qui avait pour titre d'ailleurs Match de Catch à Vielsalm, avec déjà le super-héros catcheur à la moustache blonde Hulk Hogan, qu'on va retrouver dans L'amour dominical.
Oui, en fait c'était une première version du projet, puisque à la base, la directrice de ce centre, Anne-Françoise Rouche, a fait appel aux artistes du collectif Frémoc, puisqu'on n'est pas seulement un éditeur, mais on est tous auteurs.
Un collectif, ouais.
Voilà, on est un collectif.
Et d'auteurs.
Et d'auteurs. Et donc, l'idée était de voir s'il était possible de réaliser des projets de bande dessinée en binôme. Et donc, notre groupe est allé voir sur place pour faire connaissance avec ces artistes. Et donc, à la base, le projet était de faire un livre avec, on va dire, 5 binômes. Et c'était chaque fois l'idée de faire une vingtaine de planches. Donc, la partie qui a été publiée dans le match de catch à Vielsalm, c'est tout simplement le début du récit que j'ai fait ici. Et qui, finalement, a pris tellement d'ampleur, notre rencontre a généré des passions et soulevé des enthousiasmes incroyables, et quasiment la majorité des gens du groupe ont voulu poursuivre. Vraiment, ça a été une décision personnelle, d'envie de poursuivre ce
travail.
Parce
que c'était une belle rencontre humaine, ou c'était aussi sur des bases artistiques avec Dominique Théâtre? Comment vous l'avez connu?
Donc on est arrivé un jour de décrochage d'expo, et puis on se baladait dans ce lieu qui est absolument magnifique. Ce sont des anciennes casernes militaires, mais qui ont été complètement réarchitecturées. Et le lieu déjà est vraiment splendide, complètement ouvert et tout. Et puis bien sûr, les œuvres art brut, moi ça m'a toujours parlé. J'ai toujours rêvé de faire des projets avec des artistes handicapés mentaux, parce qu'il y a une force, une liberté de création proche de celle qu'on peut trouver parfois chez les enfants ou parfois chez certains artistes qui prennent, quand on prend des psychotropes. Ou le fait est qu'il y a une désinhibition et un lâcher-prise extraordinaire. Bref, il y avait cette exposition et puis on était en train de se balader, regarder un peu les divers travaux. Et j'étais avec mon compagnon qui restait un peu en retrait et qui s'est attardé justement sur le travail de Dominique, qui était décroché du mur, et qui était accompagné de quelques gros classeurs. Et je vois mon compagnon, là, il m'appelle, et il était en train de feuilleter ses classeurs. En fait, ces classeurs, 3 énormes classeurs, contenaient des centaines et des centaines de pages
dactylographiées,
incroyable, ouais. Avec un tout vieil ordi, une vieille typo, et ça contenait ses journaux intimes. Et on a lu un peu quelques pages, et ça a été un flash immédiat, parce qu'il avait dans son écriture une forme tout à fait spéciale, complètement atypique, qui ne ressemble à rien d'autre que j'avais lu précédemment. Et pour moi, ça, c'est un truc qui m'intéresse, c'est-à-dire quand une écriture est reconnaissable parmi 1000, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, c'était à la fois très drôle, et en même temps super touchant, parce que ça parlait
de son tragique, quotidien. Hein, et des fois tragique,
exactement.
Quand il parle de son handicap et de tous les rêves qu'il ne peut plus réaliser, on est pris entre deux sourires, on peut sombrer dans quelque chose de très tragique.
Voilà. Il brasse tout en même temps les sujets les plus risibles, drôles, du quotidien très fragile, Et en même temps avec des aspects plus dramatiques de sa vie, mais les deux sont mis ensemble, et ce qui fait que c'est pas du tout lourd, c'est jamais pesant, c'est jamais mélodrame, c'est toujours très léger, c'est abordé par la circonférence, et c'est extrêmement touchant en fait.
Mais Dominique Goblet, pour avoir une idée précise de cette association, la S Grand Atelier, est-ce que ce sont des gens qui sont artistes à la base, même s'ils ont un handicap mental, ou est-ce que ce sont des gens qui ont cet handicap mental, et dans le cadre d'une réinsertion dans la vie, on leur donne tous les moyens d'exprimer par l'écriture, par le dessin, par d'autres formes d'art, une manière de s'exprimer, de s'extirper aussi de leur isolement.
En fait, ça peut être les deux, parce que il y a des personnes qui travaillent là, qui à la base avaient déjà des velléités artistiques. C'est le cas de Dominique Théâtre, puisque dans tous ses carnets, il parle de ses rêves d'être artiste et ce rêve qu'il avait déjà avant d'avoir son accident qui a été la cause de son handicap, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Pour le reste, il y a aussi des personnes qui viennent là, un peu curieux, qui ont peut-être un intérêt et que petit à petit, en mettant devant des outils de création, se découvrent
des
moyens d'expression
artistique
et qui en fait les amènent ailleurs, c'est-à-dire plus dans les font sortir aussi de leur handicap très restreignant, on peut dire.
Chapeau à cette association là, S Grand Atelier, c'est bien ce qu'ils font. Mais vous-même, Dominique Goblet, pourquoi vous avez accepté de relever le défi de co-signer un livre, on va en parler, donc L'amour dominical, avec Dominique Théâtre?
Au départ, comme j'ai dit, j'étais vraiment curieuse. J'appréhendais aussi un petit peu, je l'avoue, parce que est-ce que le moyen de communication va être simple, difficile? Je ne savais vraiment pas si j'étais capable de rentrer en relation profonde. C'est ce qui est absolument nécessaire pour pouvoir collaborer dans un projet artistique. Mais de fait, l'art brut, l'art outsider, l'art en marge, c'est quelque chose qui m'a toujours absolument fascinée. Donc quand cette invitation s'est profilée, moi j'ai accepté directement. Mais je ne savais pas si j'allais pouvoir construire un projet. Il se fait que la fascination que j'ai eue pour l'originalité de l'expression de Dominique qui mélangeait déjà, c'est ça sa particularité, il mélange tout le temps texte et image. Moi, ça m'a immédiatement convaincue. Pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, il se fait que oui, au départ, on rencontre des personnes qui sont porteurs d'une différence, mais très vite ça s'annule. Quand vous voyez régulièrement cette personne, vous ne focalisez plus sur le handicap. Vous voyez juste ce que cette personne a de singulier et les portes qu'elles ouvrent et que nulle autre personne ne pourrait vous ouvrir. Mmh. Et que même vous-même, vous ne pourriez jamais accéder à des mondes qui sont des mondes complètement atypiques et hors du commun. Seul, je ne serais jamais arrivée à faire ce travail. Et ça m'intéresse dans les collaborations. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne fait plus un travail avec une personne malade ou handicapée ou avec une déficience quelconque. On fait
Mais quelle travail. Est la déficience, justement, de Dominique Théâtre?
Ce qui s'est passé, c'est que Dominique a eu un accident de moto à l'âge de 18 ans. Il est resté 6 mois dans le coma. Et il en a gardé des séquelles physiques, mais surtout mentales. Alors, je ne sais pas si ces séquelles ont participé à cette espèce d'ouverture d'esprit, cet imaginaire qu'il a, ou s'il avait ça déjà avant, je ne peux pas vraiment le préciser. Moi, j'ai l'impression que son handicap, c'est une force, une forme de force, parce qu'il n'y a plus de barrière.
Et vous avez pu dialoguer avec lui, Dominique Goblet? Comment? Par le dessin, par des idées, par des discussions?
Là, vous touchez à quelque chose de très particulier parce que ça a été vraiment quelque chose qui s'est construit. Il faut savoir que cette collaboration, elle s'est étalée sur 10 ans. Donc il y a eu de nombreuses résidences et ça n'aurait pas pu se faire, je pense, en quelques mois. C'est impossible. Parce que petit à petit, il faut trouver la manière justement de communiquer et de mettre les choses en rythme. Une des particularités de la problématique de Dominique, c'est qu'il parle tout le temps. Il est en roue libre continuelle. Alors pour la plupart du temps, c'est des blagues, des petits jeux de mots, des calembours, mais que vous entendez parfois en boucle. Après une heure, vous avez entendu la plupart de ces blagues et ça peut être assez fatigant. Et donc, il faut installer des dispositifs parce que moi, je travaille en général en silence. Et donc, c'est compliqué de travailler, de dessiner et en même temps d'avoir quelqu'un qui est dans une logorrhée continuelle. Et donc, voilà, il y avait des petites astuces pour réussir à installer des silences et notamment aussi des rythmes de travail à trouver parce que lui, il dessine extrêmement vite. Donc, je lui proposais de faire un croquis. Moi, j'essayais de dessiner sur une autre partie d'un dessin. Il avait fini après 10 secondes. Enfin, ça, c'est compliqué. Voilà, ça, c'est les rythmes qu'il faut installer.
Et après 10 ans, ça donne donc ce beau livre, grand format, L'amour dominical. 4 saisons composent d'ailleurs ce livre en autant de chapitres. Chacun des chapitres contient 3 variantes de travail en commun. D'ailleurs, il y a d'abord le fameux fragment du journal de Dominique Théat, qui tapait à la machine, un journal de bord où il se livre beaucoup d'ailleurs. Oui. Et puis son style. Il arrive à passionner avec son style, un style simple, redondant, brut, répétitif, mais qui dit des choses très intéressantes.
Mais c'est magnifique ce que vous dites, parce que c'est exactement ça. Il parle de son quotidien. Effectivement, ce quotidien est redondant puisque son agenda est très, très réglé comme du papier à musique. Donc, il va raconter le lundi, j'ai atelier de dessin. Le mardi, j'ai hypothérapie. Donc, il monte un cheval. Et le mercredi informatique, en gros, ça tourne autour de ces trois activités. Et de temps en temps, il va y avoir des imprévus, voilà, ah oui, des brèches. Et donc, c'est comme des déclinaisons qui sont un peu à la mode de Glenn Gould, qui joue les variations Goldberg. Donc, c'est vraiment autour de 2-3 sujets de faire des variations comme ça, mais qui sont tout le temps différente et extrêmement drôle, notamment le cheval Norvik qu'il faut dépoussiérer, monter sans selle, etc. Et il se plaint de ne pas avoir la bonne tenue, qu'il appelle la tenue de jockey. Il est très très déçu de n'avoir que des bottes en caoutchouc comme les fermiers.
C'est un extrait de son journal de bord que vous publiez dans le livre que signé ensemble, Dominique Goblet, ou là aussi vous avez choisi du brut?
Disons que moi, je me suis retrouvée avec l'ensemble de ses écrits et il a fallu choisir des fragments. Donc, j'ai quand même choisi à dessein de garder ce côté un peu maestrum. C'est presque une forme d'hypnose. On tourne comme une musique. Et à travers ces textes, de temps en temps, tout d'un coup, il va aborder une partie de sa vie, de ses rêves et de ses désirs profonds, comme vous l'avez évoqué plus tôt, notamment cet accident de moto qui fait qu'en fait, son permis de conduire sera jamais possible. Mais par exemple,
et c'est son rêve, hein, c'est-à-dire voilà. c'est assez poignant quand il revient là-dessus.
Par exemple, pour aborder ce rêve de conduire une voiture BMW, nouveau, etc. Oui. Il va l'aborder par le fait qu'ils vont avoir la visite de Saint-Nicolas dans le centre. Et donc, il va parler de ça assez longuement, de ses doutes. Est-ce que Saint-Nicolas, c'est pas une sorte de guignol juste bon à distraire les enfants? Et il en parle assez longuement, de façon très drôle, pour finalement arriver à dire « Mais moi, ce que je voudrais qu'on m'offre, enfin, ce que je voudrais comme cadeau dans la vie, c'est le permis de conduire. Et ça, il me faut l'oublier. »
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Autour de ce journal de bord, il y a bien sûr vos dessins, Dominique Goblet, mais il n'y a pas ça. Il y a aussi une fiction, et cette fiction, vous l'avez imaginée à deux, donc c'est deux auteurs, vous l'avez travaillé ensemble, et ce sont les aventures et les bagarres d'Hulk Hogan, donc un personnage sans doute inventé par votre co-auteur, Dominique Théat.
Alors Hulk Hogan, c'est pas n'importe qui pour Dominique Théâtre, et c'est même une figure, on peut dire, mythique, puisque en fait, Hulk Hogan serait une sorte de ersatz de son beau-père. Et son beau-père est la personne qu'il a vue en premier quand il est sorti de ce fameux coma. Et à partir du moment où ça s'est passé, son beau-père est devenu une figure presque déifiée. Et tout ce qui touche de près ou de loin à son beau-père est source d'intérêt. Donc ça peut être les voitures BMW dont il connaît toute la machinerie jusqu'au moindre détail. Il est capable de dessiner le moteur des BMW. C'est absolument dingue, de mémoire. Il se fait que son beau-père, camionneur, ressemble à Hulk Hogan. Et donc Hulk Hogan est une figure très importante pour lui. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de travailler pour ne pas rester trop collé à lui, se servir d'un personnage sur lequel on peut tout projeter.
Et donc d'inventer une fiction. Alors il y a deux fictions en réalité. Bah, il y a les aventures là avec beaucoup de bagarres. Hein. Il s'agit quand même d'un catcheur. Et puis il y a des aventures plus sentimentales entre le même catcheur, Hulk Hogan, et la femme à barbe bleue.
Bah oui, c'est la vie. Ça se résume à deux choses, bagarre et amour, la belle vie.
Bon, mais alors comment vous avez écrit ensemble, dessiné ensemble cette fiction?
Alors petit à petit, au moment quand on s'est rencontrés, j'ai commencé à penser à la manière dont j'allais programmer ce livre. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de diviser ce récit en trois parties. Donc d'une part, il y a les journaux intimes, les extraits du journal intime de Dominique Théâtre. Et là, comme c'est son écriture seule, j'ai décidé d'intervenir avec des dessins seuls. Et j'ai, à travers les saisons, essayer de retrouver l'ambiance des paysages de Vielsalm qu'il aurait pu voir sur les routes, depuis les routes où il a eu ce fameux accident. Donc c'est juste une évocation très contemplative. Voilà. Et par rapport au récit fictionnel, les bagarres, on les écrit ensemble et on les dessine ensemble. Et l'amour, il dessine seul et on écrit ensemble. Donc comme ça, il y a une vraie division équilibrée de notre travail respectif, sans que l'un prenne plus de place ou essaye de voilà, moi personnellement, il m'était absolument impossible, travaillant avec Dominique Théâtre, de me pousser en avant pour prendre le dessus sur son travail. Au contraire.
Alors, ce qui est troublant dans ce très très beau livre qui est L'amour dominical, c'est que on ne sait pas comment le lire. Est-ce qu'on le lit à la manière de Dominique Théâtre, c'est-à-dire avec ses yeux d'enfant, parce que il y a quelque chose très premier degré, ou est-ce que il faudrait se référer à ce que vous avez fait, Dominique Goblet, c'est-à-dire auteur de bande dessinée plutôt conceptuelle, expérimentale?
C'est une bonne question. Moi, je pense que chacun va aborder le livre selon ses plaisirs et ses goûts. Je pense que c'est vraiment un livre dans lequel on peut se plonger, qui peut paraître un peu atypique pour des gens qui s'attendent à une bande dessinée très classique, puisqu'on mélange une paire de textes et de bande dessinée. Moi, je pense que après, les deux univers fonctionnent parfaitement ensemble.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
L'amour, 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 dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif. L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, l'amour, à l'amour, dont on parle toujours. L'amour, mais la nuit un bonnet, et le jour porte un masque. L'amour, l'amour, c'est par la flamme même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. L'amour, l'amour, à l'amour. L'amour, l'amour, à l'amour. Thank you.
d'amour. Mais la nuit a un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre.
L'amour, 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 l'amour par Mouloudji là. Et là, ce matin, je vous recommande vivement cette bande dessinée, ce livre illustré, L'amour dominical, de Dominique Goblet et Dominique Théat. C'est un livre qui a été conçu pour être lu en tant que tel, ou au départ, ça devait être juste une exposition de vos travaux, Dominique Goblet ?
C'était totalement un livre. L'exposition, c'est plutôt l'extension du livre, mais au départ, le projet, c'est le livre.
Et dans ce livre, vous utilisez, j'ai l'impression que vous changez de matériaux au fur et à mesure que vous avancez dans le récit avec votre co-auteur.
Bon, il faut savoir que ce livre, il s'est quand même construit sur une période assez longue de 10 ans. Donc forcément, il y a une évolution graphique, mais j'ai voulu aussi garder la technique spécifique à chaque chapitre pour pouvoir marquer les chapitres différents. L'amour, les bagarres et le journal intime.
On a l'impression qu'il y a aussi de la peinture dans ce livre. Qu'est-ce que vous utilisez, Dominique Goblet, pour travailler ?
Les paysages sont réalisés au pastel gras. Pour moi, le rapport aux arts plastiques, il est présent dans tous mes livres. Et j'adore que la bande dessinée soit un médium qui, comme les autres dans l'art contemporain, peut faire bousculer les frontières et s'ouvrir et ne pas rester trop enfermé dans les codes de la bande dessinée. Donc, voilà.
Et cette poésie qu'il y a, qui se dégage, c'est une mise en scène ou une mise en page de vos dessins, de vos travaux, de cette histoire, de cette fantaisie amoureuse racontée vraiment au premier degré, mais qui est vraiment passionnante.
La poésie est présente dans tout le livre, pas seulement à travers les paysages qui sont contemplatifs, mais pour moi, dans le texte, l'écriture si spécifique à Dominique, et cet humour complètement dingue qu'il a dans chacune de ses phrases, pour moi, c'est vraiment de la poésie pure, quoi. J'ai rencontré un poète, en fait.
Pour vous, c'est un poète ou un artiste ?
Un grand génie, en tout cas. Complètement hors du commun. Et
pourquoi je dis ça ? Direz-vous art brut pour le mettre dans une case, votre co-auteur ou...
Je dirais art. Je dirais art parce que c'est quelqu'un qui crée quelque chose qu'on n'a jamais vu, une écriture qu'on n'a jamais lue ailleurs. Et quand vous approchez ces textes, après avoir lu 3 pages, si vous tombez sur une page de Dominique, vous reconnaîtrez immédiatement que c'est lui qui l'a écrite. Et ça, pour moi, c'est le signe d'un génie. C'est quand vous arrivez à donner accès à un monde qui est le monde de cette personne-là et de personne d'autre. Immédiatement reconnaissable.
Dominique Goblet, pour terminer, vous avez présidé le jury du dernier festival d'Angoulême qui a primé Émile Ferris. Et bravo, puisque nous avons beaucoup aimé ici « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » édité par Toussaint l'Aventure. Est-ce que ça a été facile d'imposer ce choix aux autres membres du jury ? Parce que, disons-le, c'est aussi une bande dessinée d'auteur, comme on dit.
C'était très jubilatoire de faire ce jury. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai rencontré des gens formidables. Et ça n'a pas du tout été difficile. On était plutôt d'accord sur le choix en général, notamment celui de Émile Ferris, parce que c'était évident que ce livre, de toute façon, allait faire partie des gagnants. On ne savait pas encore à quelle place. C'était un premier livre, néanmoins on n'allait pas la mettre dans la posture de jeune talent, c'était pas possible puisque c'est un auteur de 50 ans et qui a fait une œuvre en fait. Pour moi et les autres membres de la commission cette année, il y avait une vraie mission d'amener la bande dessinée, une bande dessinée peut-être différente, qui justement pousse ces frontières dont je parlais précédemment, et d'amener le public vers ça. Pour moi, c'était une responsabilité.
Et... Puisse le public arriver jusqu'à l'amour dominical ? Une édition Frémok et Knock Outsiders par Dominique Goblet, mon invité ce matin, merci d'être venu, et Dominique Théat.
Merci mille fois, Toufik. Bye.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Parlons culture autrement, l'anachronique culturelle. Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps ? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr. France Culture présente les 24e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Festival majeur du 9e art en France, les rendez-vous occuperont la halle Fraissinet, 5000 m² dédiée aux auteurs, à leurs univers et leur public. Parmi les 80 auteurs invités, retrouvez notamment Enrico Marini, François Schuiten, Marguerite Abouet, Léa Mazet et Thébault. Les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, les 1er et 2 juin et tous les mois de juin pour des expositions. Un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump annonce une taxe de 5% sur tous les produits importés du Mexique. 5%, puis 10, voire 25% au fil des mois. Le président américain veut ainsi peser sur l'immigration venue d'Amérique centrale vers les États-Unis. Parti de Belgique, hier soir, le corps de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi est enfin arrivé en République démocratique du Congo, 2 ans après sa mort. Reportage sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa dans ce journal. Et puis nous analyserons l'annonce du procureur de la République de Paris. Il assure que des policiers seront jugés pour des violences sur des manifestants gilets jaunes ces derniers mois. Réaction à suivre. Après la Chine et l'Europe, Donald Trump menace donc économiquement le Mexique. Le président américain annonce des droits de douane sur tous les produits mexicains, une hausse de 5% ces prochains jours, tant que le flux de migrants clandestins venus d'Amérique centrale en traversant le Mexique ne sera pas stoppé. Le président mexicain appelle lui ce matin au calme, au dialogue, mais Donald Trump semble décidé à poursuivre sa stratégie de chantage, Grégory Phillips.
Si la Maison-Blanche applique bien la menace de Trump, à partir du 10 juin prochain, tous les produits en provenance du Mexique seront taxés à 5%, puis 5% de plus le mois suivant, et encore le mois d'après, jusqu'à atteindre 25% au 1er octobre. Chaque année, les États-Unis importent du Mexique environ 350 milliards de dollars de biens, des produits agricoles, des voitures, des instruments médicaux, etc., qui seront donc soumis à ces nouveaux tarifs. En enclenchant ce bras de fer commercial, Donald Trump veut faire pression sur les autorités mexicaine afin qu'elle lutte plus efficacement contre l'immigration clandestine. Mais la stratégie est risquée car elle peut torpiller l'accord commercial que Trump a pourtant lui-même conclu avec le Mexique et le Canada. Autre conséquence, tous les produits arrivant du Mexique aux États-Unis seront immédiatement plus chers. Mauvaise nouvelle pour le consommateur américain. Mais avec ces menaces, Donald Trump sait aussi qu'il replace l'immigration clandestine au cœur de son programme à 18 mois de la présidentielle.
Donald Trump qui par ailleurs suspend le traitement commercial préférentiel qui existait jusqu'alors entre les États-Unis et l'Inde. Il avait toute cette année régulièrement dénoncé les tarifs douaniers élevés que l'Inde impose aux produits américains. La fin d'une longue attente en République démocratique du Congo. Le corps de la figure de l'opposition dans le pays, Étienne Tshisekedi, mort il y a plus de 2 ans maintenant en Belgique, son corps est enfin de retour en RDC, son pays natal. L'avion transportant son cercueil s'est posé hier soir à l'aéroport de Kinshasa où des milliers de Congolais l'attendaient avec émotion. Une soirée qui fera date dans l'histoire du pays. Florence Maurice était sur le tarmac de l'aéroport.
Silence et recueillement. Lorsque l'avion d'Étienne Tshisekedi se pose enfin sur le tarmac, quelques proches sont au pied de l'appareil. Félix Tshisekedi, le fils désormais président, observe, visage grave aux côtés de nombreux officiels. Il serre sa mère longuement dans ses bras, puis pose ses mains sur le cercueil. L'émotion se lit dans les regards. Patricia Kabena est l'une des filles de l'opposant.
Notre père, élu en 2011, bien qu'il n'a pas exercé son pouvoir, il reste notre président élu.
Un mélange de tristesse et de soulagement de voir enfin l'opposant historique de retour sur sa terre. Christophe Ngoï, figure de la société civile congolaise.
Sa présence va raviver la flamme qu'il a laissée et nous sommes là pour l'entretenir.
Nombreux dans l'assistance expriment leur reconnaissance vis-à-vis du combat mené par l'opposant pour qu'émerge la démocratie dans le pays. Parmi eux, l'ex-prisonnier politique Frank Diongo.
C'est une perte immense pour la RDC. Il nous enseignait à dominer la peur, à démystifier les dictateurs, à combattre pour un état de démocratie et de droit.
Le cercueil est placé dans un corbillard vitré et aux couleurs du drapeau congolais. Lorsque le cortège funèbre quitte l'aéroport, une foule nombreuse s'élance dans sa suite en courant.
C'est notre héros, leader maximum de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux d'avoir créé notre père de la nation.
Florence Maurice, correspondante de RFI à Kinshasa pour France Culture. L'espoir d'une trêve au Yémen s'éteint jour après jour. 6 mois après un sommet en Suède à ce sujet, les belligérants au Yémen, outils et gouvernements, poursuivent toujours leur combat. La trêve s'éloigne donc. Une crise d'autant plus complexe que s'affrontent par alliés interposés les États-Unis et l'Iran. Et cela a sapé tous les efforts de paix au Marwaman.
Les États-Unis et l'Iran se livrent au Yémen une guerre par procuration. Chacun son allié, l'Arabie Saoudite pour Washington et les milices houthis soutenues par Téhéran. Le chercheur yéménite Osama Al-Rawani.
L'Arabie Saoudite est l'allié des États-Unis dans la région, ce qui signifie que les tensions actuelles entre le régime iranien et Washington ont obligatoirement des répercussions sur la guerre au Yémen.
Au soutien américain à Riyad, les Iraniens répondent par un appui militaire accru aux milices houthis. Majid Al-Madaji, spécialiste du Yémen.
C'est un soutien plus actif. Les houthis ont reçu des missiles plus sophistiqués. Ils bénéficient également de drones plus modernes.
Une aide militaire à cette milice houthi que Majid Al-Madaji fustige, tout comme les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Il contredit la version de Florence Parly, la ministre des Armées, selon laquelle rien ne prouve que l'armement vendu par la France à Riyad tue des civils au Yémen.
Toutes les armes utilisées au Yémen tuent des yéménites, même les armes françaises. Mais le problème avec la France, c'est qu'elle n'use pas de son influence sur le plan politique pour mettre fin à cette guerre au Yémen.
La France n'est pas la seule à être épinglée par ces chercheurs. C'est l'ensemble de la communauté internationale qui est accusée d'avoir abandonné le Yémen à son sort.
Omar Waman, qui évoquait l'Arabie Saoudite engagée dans la guerre au Yémen et alliée des États-Unis contre l'Iran. Hier, Riyad a accusé Téhéran de menacer la sécurité dans le golfe Persique. Le roi Salman avait convoqué un sommet d'urgence avec les États arabes à ce propos. Le procureur de la République de Paris assure dans une interview au Parisien ce matin que des policiers accusés de violence envers des gilets jaunes seront renvoyés en correctionnel d'ici la fin de l'année. Rémi Heitz ne rentre pas dans le détail de chaque affaire, mais il affirme que des juges d'instruction travaillent déjà sur 8 cas de violence, notamment sur des manifestants frappés à la matraque dans Paris. Il n'y a aucune volonté d'éluder ces violences ou de les minimiser, affirme le procureur de Paris. Explication avec Anne-Laure Bouzige.
Les policiers sont donc des justiciables comme les autres, une mise au point nécessaire pour David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
Beaucoup imaginent à tort que les policiers bénéficient d'une forme de présomption d'innocence, voire permanente. C'est totalement faux. C'est une institution qui est extrêmement contrôlée, parfois extrêmement sanctionnée. Il faudra que les policiers, s'il y en a qui sont coupables, soient sanctionnés à la juste mesure de ce qu'ils ont fait. Mais en tout état de cause, ils sont des justiciables et s'il y a des faits qui leur sont reprochés, ils vont pouvoir s'expliquer devant la justice.
Pour l'instant, aucun policier ou gendarme n'a été mis en examen, mais 8 affaires sont désormais entre les mains de juges d'instruction. C'est le cas de Jérôme Rodriguez qui a perdu un œil après un tir de LBD fin janvier. Son avocat Rialimi dénonce la différence de traitement judiciaire entre gilets jaunes et forces de l'ordre.
Ce traitement inéquitable, dont M. Heitz est responsable, puisque c'est lui qui est procureur de la République et qui oriente les procédures, a peut-être contribué à aggraver la situation et la crise des gilets jaunes, parce que quand vous avez des violences qui restent sans réponse judiciaire, eh bien cela amplifie la violence du mouvement.
Et pour le syndicat Unité SGP Police, les forces de l'ordre sont jetées à la vindicte populaire, alors que selon le syndicat, la responsabilité est collective, à commencer par celle du ministère de l'Intérieur.
Les gardes à vue des parents et du frère du principal suspect de l'attentat de Lyon ont été levés faute d'éléments incriminants. Le suspect, lui, est toujours interrogé dans les locaux de la sous-direction antiterroriste. Hier, il a reconnu avoir prêté allégeance au groupe État islamique. Les chiffres avaient été précisés la semaine dernière et ils ont une résonance particulière en cette journée mondiale sans tabac. En France, l'année dernière, le tabac était la cause d'un décès sur 8. Le pays comptait 11,5 millions de fumeurs. C'est tout de même 1,5 million de moins qu'en 2016. Cette baisse correspond à la fois au nombre de personnes qui arrêtent la cigarette et à la réduction du nombre d'entrées dans le tabagisme. Les politiques publiques y sont pour quelque chose. Voilà ce qu'estime Jean-Pierre Coutron. Il est psychologue clinique spécialisé dans les addictions.
On voit que la politique du prix continue, comme à chaque fois, d'avoir des facteurs dissuasifs. On voit que le paquet neutre, la bataille autour du côté très attractif du tabac, referme un peu la porte d'entrée. On pourrait dire que les interdits de consommer dans l'espace public, dans un certain nombre de lieux, qui compliquent et puis qui dénormalisent le tabac, continuent même à distance d'avoir l'effet. La bataille qu'il faut sans cesse mener pour que le tabac réapparaisse pas à la télé, dans le cinéma. On voit qu'il y a toujours des tentatives maintenant avec les influenceurs sur... Voilà, donc une sorte d'attractivité du produit qui est mieux contrôlée à travers ces outils, paquets neutres, lutte contre la publicité, interdiction de consommation sur des plages. Et puis, il y a les sorties. Et les sorties, il y a eu des mesures très fortes, hein, l'accessibilité, la gratuité des traitements substitutifs, l'apparition de nouveaux modes de traitement médicamenteux, puis je le garde pour la fin parce que parfois on l'oublie, une certaine installation du vapotage qui se révèle être un outil et de réduction des risques et pour certains, un outil de sortie du tabagisme. Voilà, donc ça marche bien.
Des propos recueillis par Lou Fahim pour France Culture. Le soleil s'installe sur l'Hexagone ce vendredi. Les quelques nuages matinaux sur la Normandie devraient se dissiper à la mi-journée. Comptez ce matin 18 degrés à Lille, 20 à Paris, 22 à Bordeaux, 24 à Perpignan. Des températures qui vont grimper jusqu'à dimanche. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
La mer est au centre de votre journal des idées ce matin. Elle déploie les horizons de l'imaginaire, balancée entre l'aspiration au renouveau et à la découverte ou au contraire, l'effroi des profondeurs abyssales.
Oui, les deux coexistent d'ailleurs assez souvent. Comme chez ces grands marins qu'étaient les Grecs, Eschyle parle du sourire innombrable des flots, quand Homère évoque le bouillonnement pourpre et vineux de la vague, pareil au sang. Tout comme les gens de la montagne, les peuples de la mer ont développé une culture fortement marquée par l'élément naturel. La dernière livraison de la revue Papier, la revue de France Culture, propose un dossier sur la Bretagne au centre du monde. La formule n'est paradoxale qu'en apparence. Joël Cornette explique dans La Fabrique de l'Histoire que l'expression provient au XVIe siècle d'un contemporain de la Ligue. Elle illustre la position du pays au centre d'un arc atlantique qui va de l'Islande au Portugal. Elle exprime aussi un sentiment généralement partagé par les habitants du littoral, comme par ceux des régions de montagne, l'esprit de résistance, opposé en l'occurrence aux velléités hégémoniques de la monarchie, d'abord celle des Francs, puis celle de l'État carolingien et capétien. Entre-temps sont arrivées des populations depuis la Grande-Bretagne qui contribuent à cultiver cet esprit d'indépendance, lequel se traduit notamment par le culte de saints fondateurs pas très catholiques, formant avec le Trobre un cercle enchanté, géographique, sacral et politique qui authentifie l'originalité de la Bretagne. L'image du cercle se perpétue dans le pèlerinage qui leur est dédié et qui fait justement le tour de la Bretagne. L'historien rappelle que le pays n'est devenu une province du Royaume de France qu'en 1532. Et à propos de la culture spécifique qui s'y est développée par rapport à l'élément marin, il évoque une synergie entre l'Armor maritime et l'Argoat terrien qu'on oppose en général un littoral économiquement dynamique face à l'intérieur présumé archaïque. Longtemps, l'industrie textile démentira cette opposition, exportant dans toute l'Europe les rudes toiles de chanvre, mais aussi les draps de lin beaucoup plus fins. La plupart des voiles des navires, des caravelles qui vont en Amérique au temps de Christophe Colomb et par la suite sont bretonnes. Entre vagues et étoques, écume et tempêtes, Michel Pomarède raconte dans un documentaire l'histoire de ces marins immobiles que sont les gardiens de phare. Celui de Trévenec est l'un des trois phares qui entourent l'île de Saint. On le surnomme l'enfer car une légende noire fait état de bruits étranges et de voix entendues. Quelques accidents mortels aussi l'ont illustré. Mais pour Michel Plouinec, gardien issu de générations de gardiens à Armen, c'est bien celui-là qui mérite du coup l'appellation d'enfer des enfers. Une nuit de tempête, raconte-t-il, je suis monté dans la lanterne, c'était ahurissant, le vent, le bruit, le feu, l'eau qui rentre de partout, les paquets de mer qui viennent sur la lanterne. Pourtant, il parle avec enthousiasme de son métier, il ne s'est jamais ennuyé, pas le temps de rêver, surveiller le feu, écouter son chuintement, être attentif au navire, voir si quelqu'un est en difficulté. J'ai aimé ça, l'état de veille, le sentiment d'avoir la nuit devant soi. La vie des marins pêcheurs en haute mer, partis pour des campagnes continues de 4 semaines, ne lui cède en rien, surtout eu égard à l'alternance du jour et de la nuit. Boris Charcosset a mené une enquête au long cours à bord d'un chalutier de pêche au large, dans les eaux du nord de l'Écosse. Son livre, publié par la Société d'ethnologie dans la collection Anthropologie de la nuit, sous le titre Contre temps et marées, pêcheurs hauturiers de l'Orient, en mer d'Écosse, raconte ces campagnes interminables, on dit des marées, au cours desquelles les coups de chalut se succèdent à un rythme infernal, nuit et jour. Les horloges et calendriers présents un peu partout à bord permettent la recomposition du temps normal de terre, relève-t-il. Un matelot lui confie, on est déconnecté total. Quand on rentre, il nous faut 2 ou 3 jours pour se remettre bien. La nuit est-elle sereine? C'est un fond d'ombre. Est-elle orageuse? C'est un fond de fumée. Mais l'illimité se refuse et s'offre à la fois, fermé à l'expérimentation, ouvert à la conjecture. D'innombrables piqûres de lumière rendent plus noire l'obscurité sans fond. Escarboucle, scintillation, astre. C'est signé Victor Hugo, les travailleurs de la mer. Depuis, rien n'a changé. La revue 303 publie un numéro spécial sur la mer, du rivage au grand large en passant par les ports et les marins, voire les pirates. Cet univers est bien balisé. Martina Serra évoque les phares et balises en Atlantique, lumière dans la nuit, qui ont toujours exercé une certaine fascination, même si aujourd'hui les systèmes de repérage électronique leur ont fait perdre en partie leur fonction. Anthony Poirodeau entame une traversée littéraire qui s'achève avec Maïlis de Kerangal et son récit du naufrage et de la mort de centaines de réfugiés au large de Lampedusa, son titre « À ce stade de la nuit ». Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, l'Union européenne, les gouvernements après les élections.
C'est ça, avec le vice-président du Conseil Matteo Salvini qui a dû démentir hier des rumeurs de législatives anticipées après l'affaiblissement du M5S, son partenaire, aux élections européennes. Alors qu'en Grèce, Alexis Tsipras, lui arrivé deuxième avec Syriza, remet son mandat en jeu plus tôt que prévu début juillet et que la Belgique se cherche un gouvernement suite aux législatives parallèles de dimanche dernier. Après le test européen, est-ce que ce sera le moment des épreuves nationales? Eh bien, on pèse ça avec vous. Pascal Delwitte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone depuis Bruxelles. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, bien sûr spécialiste des partis politiques en Europe, notamment Parti Vert et Gauche radicale en Europe. Vous avez publié dessus en 2016. Cette fois-ci, donc, la Grèce, l'Allemagne, mais aussi peut-être le Royaume-Uni, la France ou la Roumanie dans une certaine mesure. On a beaucoup parlé d'un scrutin marqué par l'affaiblissement des partis traditionnels et d'un morcellement politique croissant, mais hors du Parlement. Est-ce que c'est trop dire qu'il y a véritablement des exécutifs déstabilisés par les européennes?
Non, c'est pas trop dire. On le sait, traditionnellement, les élections européennes ont des impacts sur la vie politique nationale et des impacts sur la vie des États qui conduisent parfois à des remaniements, à des réorientations et régulièrement aussi à, je dirais, des scrutins anticipés ou des dynamiques nouvelles dans le chef de la vie politique nationale.
Avant qu'on parle des exécutifs, juste votre analyse des grands traits de couleur, on pourrait dire, de ces élections. D'abord, peut-être une bonne résistance un peu inattendue des sociaux-démocrates aux Pays-Bas, premier pays à voter, mais également Portugal et bien sûr socialiste espagnol. Ça, c'était pas prévu.
C'était pas prévu. De manière générale, c'est mieux qu'attendu. Après, il faut quand même bien observer que la tendance de fond est un recul, avec parfois des reculs marquants, bien sûr en France, bien sûr en Allemagne, dans le nord de l'Europe. C'est contrasté, c'est un peu mieux que ce qu'espéraient les sociaux-démocrates, mais ça reste un niveau extrêmement faible par rapport à des configurations qu'on observait à la fin des années 70 ou même à la fin des années 90. Je dirais que les défis principaux pour la social-démocratie sont toujours devant eux.
Et en tout cas pour le PSOE, Parti Socialiste Espagnol, c'est quand même une vraie victoire contre Vox qui était arrivé en force aux dernières législatives. Une fierté pour nous, mais une énorme responsabilité, a dit Sanchez. Et il pourrait tenter un exécutif minoritaire. Est-ce que ce serait trop audacieux de ce point de vue-là, avec 32,84% quand même aux européennes?
Il pourrait tenter un exécutif minoritaire, ce serait audacieux. En même temps, il faut bien observer qu'il l'a fait dans la précédente législature avec un score plus faible encore. Et surtout, on a vu que dimanche, Podemos a été très affaibli à la fois aux élections européennes, aux élections de communauté et aux élections locales. Donc le PSOE et Sanchez va devoir composer avec cette donne.
Oui. Et alors pour l'Italie, là je le disais, Salvini qui est obligé de démentir des rumeurs de la Stampa. C'est vrai que le mouvement 5 étoiles a été beaucoup affaibli. On a parlé d'inversion des positions, puisque c'est désormais la Ligue de Salvini qui est en force à plus de 30%. Mais en quelque sorte, l'Italie, c'est pas le seul pays à réaliser cette confirmation de la vague populiste, finalement, un peu isolée en Europe.
L'Italie a cette vague populiste, et on voit bien depuis l'avènement du gouvernement que Salvini est la personne marquante, la personne la plus citée à la fois à l'interne et à l'international. On observe la poussée d'autres partis populistes, mais là aussi, c'est une poussée qui n'est pas parfois aussi forte qu'on l'imaginait. Alors il y a parfois des dimensions symboliques, comme en France où le Rassemblement national est premier, mais il est moins important qu'en 2014 par exemple. Donc c'est un paysage bigarré, mais ce paysage bigarré confirme les grandes tendances que vous avez pointées au départ, c'est-à-dire une plus grande fragmentation de manière générale, et donc beaucoup plus de difficultés à faire des compromis et à dégager des points forts, notamment dans le chef de l'Union européenne pour la désignation des postes importants.
Oui, dont les discussions ont commencé cette semaine, devraient se poursuivre en début de semaine prochaine. Juste sur la percée écologique, vous dites paysage bigarré, mais bigarré peut-être aussi au niveau des nuances de vert ou de verdissement des pays, avec une poussée très forte en Allemagne, des conservateurs qui ont été dépassés par les verts, pour le coup en France, au Royaume-Uni aussi. Emmanuel Macron a parlé d'un message très fort en France et partout en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a raison?
Il a partiellement raison et partiellement tort. C'est-à-dire qu'effectivement, on observe une poussée verte, un peu comme 1999, avec des pays en pointe, comme l'Allemagne, comme l'Autriche cette fois-ci, comme la Belgique, comme la France. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a des zones beaucoup plus faibles, comme l'Europe du Sud en particulier, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et bien sûr les pays d'Europe centrale et orientale. Mais en tout cas, un mouvement vers un vote plus environnemental, a contrario, par rapport à 2014 et par rapport à une dynamique qu'on observait depuis quelques années, un recul des partis de la gauche radicale dans l'ensemble. On a vu l'échec de la France insoumise, on voit le recul de Syriza, on voit le recul de Podemos. Là aussi, il y a des contre-exemples de temps en temps, mais je dirais en dynamique, 2014-2019, une Europe plus verte, une Europe moins marquée par la gauche radicale.
Oui, au point peut-être, puisqu'on parlait de la Belgique, là, donc législative en même temps que les européennes dimanche dernier, avec les Verts qui ont eu une forte poussée et le parti écolo, donc premier par exemple sur la région de Bruxelles, qui pourrait former, a-t-il dit, une coalition climat autour de lui. Ça s'est jamais vu en Belgique, est-ce que c'est possible?
Ce sera en tout cas difficile. Il y a une poussée des Verts, elle est beaucoup plus forte du côté francophone que du côté néerlandophone, mais en tout cas cette poussée est bien au rendez-vous avec des scores très importants pour Écolo en Wallonie et à Bruxelles, et une bonne performance des Groens. Cela dit, la formation de la majorité, et en particulier de la majorité au niveau fédéral, s'avère extrêmement complexe, et à l'heure où je vous parle, la question de la coalition climat n'est pas la question principale. La question principale est de savoir si on pourra, avec les résultats de dimanche, former une majorité fédérale. C'est plutôt ça la grande question aujourd'hui en Belgique.
Oui, et si la Belgique est repartie pour 541 jours, comme ça avait été le cas à l'époque 2010-2011 de tractation. Puisqu'on parle des exécutifs, il y a eu deux destitutions quand même assez impressionnantes. Sébastien Kurz par motion de censure, donc là aussi, nouvelles élections dans le courant de l'année. Et puis en Roumanie, pour d'autres raisons peut-être, Liviu Dragnea, le premier ministre qui a dû quitter la présidence du PSD, qui est incarcéré pour des affaires de emploi fictif. Est-ce que là, il faut y voir un contre-coup des européennes, sachant que pour le coup, un genre de sanction, Dragnea s'était beaucoup opposé à la Commission européenne et à Timmermans, notamment sur sa volonté de réformer la justice pour lui échapper, dit-on.
Oui, de manière générale, ces deux exemples sont indépendants des élections européennes, puisque les dynamiques étaient en œuvre avant. Hein, la crise en Autriche précédait le scrutin européen et la crise en Roumanie précédait le scrutin européen. Mais ces scrutins ont cristallisé les choses et effectivement, je crois qu'en Roumanie, il faut que ce pays se reprenne, que ses élites politiques se reprennent et que la justice retrouve sa pleine indépendance. Et en Autriche, on voit que les personnalités qui se proclament les plus fortes pour défendre les intérêts de la nation sont parfois celles qui sont les plus prêtes à vendre ces intérêts de la nation à d'autres. Donc c'est aussi des exemples de déconstruction de rhétorique. Mais à la fois en Autriche et en Roumanie, les deux processus sont deux processus qui sont quand même positifs parce que finalement l'état de droit prévaut en Roumanie et en Autriche, l'électeur sera appelé à trancher face à la situation à laquelle il s'est retrouvé.
Et alors, je parlais de la Grèce en début d'entretien. Donc là, le Premier ministre Tsipras a, dès dimanche soir dernier, convoqué des élections anticipées. Ce sera le 7 juillet. Est-ce qu'il faut dire qu'il est clairement désavoué par ce vote européen, puisque Syriza donc arrive deuxième derrière les conservateurs?
Oui, c'est un désaveu. Après, pour la Grèce, comme pour les autres pays européens, il faut toujours être prudent parce qu'il y a régulièrement une surinterprétation des résultats électoraux européennes. Surinterprétation parce que, d'une part, le comportement aux élections européennes n'est pas toujours le même qu'aux élections nationales. On est, je dirais, dans le chef de beaucoup d'électeurs, on a un sentiment de plus grande liberté de choix, en quelque sorte, et d'un choix qui a moins d'importance et moins d'impact. Et d'autre part, il faut être très prudent dans la comparaison de résultats entre les élections législatives et les élections européennes, parce que le différentiel de participation électorale est très élevé, et que donc ceux qui vont participer aux élections législatives vont ramener du poids dans la décision du comportement électoral. Mais il n'empêche que ces élections européennes provoquent toujours des réactions politiques très importantes, et vous avez raison de le souligner. Le cas de la Grèce est emblématique, ça a cristallisé le choix du Premier ministre d'organiser des élections anticipées.
Et peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi emblématique, ce sont les doutes qui sont apparus en Allemagne cette semaine, concernant notamment la CDU, donc elle-même fragilisée par une poussée, on pourrait dire, verte en Allemagne. Aujourd'hui fragilisée, Angela Merkel qui était obligée de dire que la CDU avait sa part de responsabilité dans les questions climatiques, la CDU obligée de reporter des décisions climatiques importantes. Est-ce que là, c'est pas le projet prochain exécutif complètement déstabilisé à venir?
Oui, c'est en tout cas un exécutif qui révèle beaucoup de fragilité avec la montée des Verts, le niveau encore très important de l'AFD, le déclin des sociaux-démocrates et le fait que, on le sait maintenant, Angela Merkel est dans son dernier mandat, elle n'est plus présidente du parti, elle est en difficulté avec la candidature de Manfred Weber pour la présidence de la Commission européenne. Donc un ensemble d'éléments qui, on le voit, pour le principal pays de l'Union d'un point de vue politique et d'un point de vue économique, fragilise la situation et donc on sent bien que, en particulier dans le chef des deux partenaires du gouvernement, la CDU-CSU d'un côté et le SPD de l'autre, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de circonspections. Et donc, il ne faut pas exclure qu'éventuellement, à un moment donné, effectivement, on rentre dans une logique d'anticipation des élections pour essayer de clarifier la situation, surtout si, d'aventure, au terme des processus qui sont engagés maintenant pour cristalliser la nomination des personnes à l'échelle de l'Union européenne, la CDU-CSU en sort affaiblie.
Et alors, prochaine échéance, c'est la semaine prochaine des élections législatives qui auront lieu au Danemark. Le Danemark où, pour le coup, les sociaux-démocrates, je crois, se sont bien maintenus pour les européennes. Qu'est-ce qu'il y a en attente de ce vote, selon vous, une confirmation des européennes ?
De manière générale, on voit que dans tous les instituts de sondage, dans tous les sondages qu'ils ont produits, le bloc de gauche est devant le bloc de droite, mais l'écart n'est pas rédhibitoire et donc il y a quand même une assez grande incertitude sur, somme toute, est-ce que ce sera plutôt le Parti social-démocrate qui devancera les libéraux et le bloc de gauche qui devancera le bloc de droite. L'attente principale est un changement de majorité, donc actuellement c'est un gouvernement libéral minoritaire, vers un gouvernement social-démocrate avec des partenaires de gauche qui pourraient voir le jour dans quelques semaines. Oui. Cela dit, on a déjà eu des affirmations, des dynamiques, des sondages au Danemark, donc il faut rester très prudent.
Oui, avec ce parti du peuple danois, en tout cas arrivé de quatrième aux élections européennes, alors qu'il était deuxième en 2015. On en reparlera et merci beaucoup pour toutes vos explications aujourd'hui, Pascal Delwitt, je le rappelle, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente les saisons Hanabi. Printemps, été, évadez-vous au Japon le temps d'une saison au cinéma. Avec les révélations Koji Fukada et Ryusuke Hamaguchi, Wonderland, le royaume sans pluie, en compétition au Festival d'Annecy. Le dernier film avec Kirin Kiki autour de la cérémonie du thé. Ou encore des avant-premières des films japonais présentés à Cannes. Un film chaque jour et de nombreux événements autour du Japon partout en France. Les saisons Hanabi, à partir du 5 juin au cinéma. Un événement France Culture.
Et à 6h59 sur Wonderland France Culture, bienvenue pour écouter les matins avec vous, Florian Dallorme, bonjour. Oui.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ce matin, nous allons parler de droits des femmes. Ces derniers mois, les lois visant à restreindre l'avortement se sont multipliées aux États-Unis. Mercredi, c'est l'État de la Louisiane qui a adopté un texte interdisant aux femmes d'avorter dès que les premiers battements de cœur de l'embryon sont détectés. Alors que les Argentines se battent encore pour avoir un accès total à l'IVG et que les partis populistes en Europe, fervents défenseurs du rôle traditionnel de la femme et antiféministes, gagnent des sièges au Parlement européen, assiste-t-on à une régression des droits des femmes dans le monde ? Nous recevrons en première partie Bibia Pavard, qui est historienne, et puis elle sera rejointe en deuxième partie par une politologue, Jennifer Merchant. Elle est auteure notamment de Procréation et politique aux États-Unis. Elle nous retrouvera donc à partir de 8h20. Mais pour l'heure, il est 7h, vous écoutez France Culture. Bienvenue à tous.